Voilà, donc je disais que le séminaire qui était tourné sur une perspective donc d'enseignement de l'histoire des arts, donc c'est l'introduction qui a été donnée par Madame Bézot, qui a bien soulevé la question de l'auteur, la question de l'identité du scripteur et la question du statut d'œuvre d'art, qui effectivement sont des points d'accroche extrêmement sensibles au sujet de la littérature numérique et de l'ensemble des arts numériques, donc vont permettre d'ouvrir le débat, de poser ces questions là-dessus, et bien évidemment, pour essayer de savoir dans un second temps ce que l'on en fait à l'école, hein, dans la mesure où les arts numériques entrent vraiment à tout petit pas dans les écoles. Voilà, alors je vais essayer de récupérer un micro quelque part, et si vous avez des questions, je vous demande de poser les questions donc directement à Madame Bézot.
Oui, c'est la question de savoir qu'est-ce qui est noble, la littérature noble, digne d'être enseignée, et puis ce qui est vulgaire, hein, démocratique mais vulgaire. C'est d'ailleurs bien la question que posait Sainte-Beuve, qui était à la fois de l'analyser, d'une certaine manière de la légitimer par des observations de la société dans laquelle il vivait. J'ai posé trois questions, j'aurais peut-être dû aussi poser la question de l'éditeur, parce que est-ce que l'éditeur disparaît ou est-ce qu'il est ailleurs? Qui est l'éditeur aujourd'hui, hein? Je crois que c'est une question qui est étroitement liée à celle de la légitimation, de la validation des œuvres, mais aussi à celle de l'auteur. Si l'auteur est son propre éditeur, en même temps, il dépend de dispositifs éditoriaux qui ne sont faits ni par l'éditeur traditionnel, ni par lui-même, puisqu'il dépend de ces dispositifs techniques qui lui permettent d'éditer. Donc la question de l'éditeur, je crois qu'Emmanuel Souchy serait mieux en mesure, enfin, puisque c'est un échange, on peut faire tourner la parole, mais cette question de l'éditeur, vous avez raison, elle est centrale, parce que l'éditeur endossait ce rôle de légitimation, de validation, de valorisation de l'œuvre littéraire, et que là, dans un monde où les frontières entre le lire, l'écrire et le publier disparaissent totalement, chacun doit se repositionner, retrouver sa place. Je crois que les rôles ne disparaissent pas, mais ils se déplacent, hein, ils sont plus au même endroit, les acteurs se déplacent. Je ne sais pas ce que tu en penses, Emmanuel.
C'est l'industrie qui est derrière, qui est l'industrie de la production, de l'élaboration, et surtout de la circulation. Parce qu'en fait, il faut derrière, parce que tout le monde peut éditer un bouquin. Aujourd'hui, n'importe qui peut éditer un bouquin. Il y a même un site précisément créé par Nicolas Taffin qui a cet objectif-là sur Internet, qui est remarquablement bien fait, je le dis au passage, et qui permet par exemple à des classes de faire un livre de façon gratuite et intelligente. Ça, c'est un premier niveau. Mais ce qui fait la validation d'un texte d'un point de vue social, c'est un dispositif qui est extraordinairement compliqué, c'est complexe plutôt, parce qu'il n'est pas compliqué à comprendre, qui repose sur des données qui sont d'ordre culturel, bien sûr, d'ordre intellectuel, mais d'ordre économique, d'ordre industriel, parce que ce qui fait la valeur d'un livre quand il va être entre les mains du lecteur, c'est le fait qu'il ait pu circuler. Et donc il faut derrière une industrie qui est une industrie de la distribution. Et donc tous ces éléments-là font que ces pôles, qui sont des pôles de circulation des textes au sein de la société, ne sont pas encore en voie de défaillance absolue, comme on veut bien le dire, ce qui me paraît à mon avis une erreur. En revanche, effectivement, les pratiques numériques repositionnent un certain nombre de choses et ne le font pas nécessairement sur la question de la fonction éditoriale qu'il faut réinventer dans le cadre du numérique, pour des raisons, je crois, en fait, la hiérarchie, elle n'a jamais disparu. Sauf que ce sont des pôles qui sont soit captés ou maîtrisés rapidement, dans la tradition de l'histoire de l'écriture, par des castes qui sont des castes de spécialistes. Et ces castes de spécialistes, elles peuvent être des castes, pour l'instant, d'informaticiens, de techniciens ou autres. Et donc, en fait, ce qu'on aperçoit, ce sont des glissements génériques de fonctions. Et c'est ça qui est le plus important, à essayer d'analyser pour voir où sont les rapports de force et des rapports de pouvoir. Parce que c'est en ces termes-là que ça doit, il me semble, notamment, devoir être analysé. Tout le monde peut se dire, devant son écran, devant Internet, je suis auteur, éditeur, diffuseur. C'est vrai, mais c'est en même temps complètement faux. Parce que ça, c'est le discours d'escorte que l'ensemble des technologies numériques, pour faire vite, hein, c'est un discours d'escorte qui permet en fait de vendre un imaginaire qui est lié à la technologie. Et ça, c'est aussi de notre devoir d'interroger ça. Parce que ça accompagne les objets. Le livre aussi, parce qu'on disait avec... c'est une des premières choses qu'on a dites avec Anzali, précisément pour l'ouverture du colloque au mois de novembre, c'est que le livre, il est aussi accompagné de sa technologie... Enfin, de son discours, pardon. J'allais dire de son discours d'escorte technologique. C'est vrai. Bon, il suffit de reprendre la Bible. Il suffit de reprendre tous les grands textes sacrés où il y a toujours, en fait, un accompagnement. Et dans la littérature sumérienne, c'est assez remarquable. Il y a toujours un accompagnement idéologique de la production intellectuelle que les hommes font. Ce que nous sommes en train de faire, alors ça passe par la publicité, ça passe par les commanditaires industriels, etc. Mais c'est la même chose. On élabore un imaginaire qui nous permet d'avoir préhension de la réalité technique, technologique, disons, pour faire vite, de ce qui est en train de se passer. Et si on arrive à bien faire l'articulation entre le discours, les techniques et les usages, les pratiques, on s'apercevra qu'il y a des distinctions qui sont fondamentales et qu'il faut réussir à comprendre maintenant pour pouvoir accompagner de manière lucide ce qu'on fera en classe, ce qu'on fera d'un point de vue social, ce qu'on fera avec un éditeur. Un livre sorti, je reprends la question initiale et je remonte après cet excursus, je remonte à la question initiale, c'est un livre, si j'édite aujourd'hui en mon nom un livre sur Internet, très content, je vais être heureux, je vais remplir mon ego d'auteur, etc., etc., quid de la lecture et quid de sa validation culturelle qui va passer par précisément les instances que Catherine évoquait à l'instant, qui sont des instances de validation, mais profondes, qui sont le résultat de décennies, de siècles d'usage dans notre espace culturel. Et ça, c'est tout ce qu'il gênerait à travailler autour de la trivialité, qui sont des espaces fondamentaux. Le texte n'existe pas en soi. Une fois que l'auteur a produit son texte, d'abord, il est redevable de toute son histoire, il est redevable de sa langue, il est redevable de son écriture, il est redevable des techniques sur lesquelles il a travaillé. Il a son apport personnel, et puis après, il y a le passage au social. Et ce passage au social, en fait, il ne peut pas se faire tout seul. C'est un leurre absolu. Et quand on est sur Internet, le fait d'avoir jeté mon texte en pâture au lecteur, entre guillemets, je suis nécessairement pieds et poings liés, d'une part, par la technique, par la technologie que je vais utiliser, mais également par les pratiques, les usages et les imaginaires qui vont circuler autour de ça. Donc c'est pas si simple que ça. Je crois pas du tout, moi, à la disparition de ces... Par contre, effectivement, ce à quoi on assiste, c'est de très profonds glissements, et ce sont des jeux d'acteurs qui sont avant tout économiques, me semble-t-il. Alors bien sûr, derrière... culturel, parce que ce ne sont pas les mêmes genres. Mais ce qu'on disait sur la hiérarchie tout à l'heure, il y a quelque chose, moi, que je trouve extraordinairement important et intéressant à interroger sur la classification. Parce que la notion de hiérarchie que vous avez évoquée tout à l'heure, je ne crois pas à une culture qui n'ait pas d'hiérarchie. C'est un non-sens, mais je le pense assez bien comme ça, en fait. Et cette hiérarchie, c'est là-dessus qu'on va réfléchir. On n'a qu'à réfléchir dans un premier temps à la notion d'index, son apparition au Xe siècle, à peu près, 9e, 10e siècle. Il a été dans un index alphabétique, a été dans un premier temps refusé. Refusé de manière extraordinairement violente. Je prends cet exemple pour en venir à la hiérarchisation sur Internet. Hein, je vais faire ce saut-là. L'index à cette époque a été refusé par l'éclair parce qu'en fait il était porteur d'une représentation d'un imaginaire qui ne répondait pas à l'imaginaire de l'époque. On classait le monde en fonction des valeurs religieuses. Et donc les minéraux, les végétaux, les humains, et puis toutes les hiérarchies angéliques avant d'arriver à la divinité. Et si on arrive devant une... c'est une représentation du monde qui est en cause. Donc c'est un imaginaire, donc c'est un mode de pensée qui est pris en compte. Et si on arrive avec une classification qui relève de l'alphabet, on fait tomber toute une représentation imaginaire et donc toute une idéologie, toute une culture. Et dans un premier temps, ça a été refusé parce que c'était proprement diabolique que de classer les objets du monde avec une hiérarchie qui n'était pas une hiérarchie qui répondait à la représentation qu'on avait. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre ? Exactement la même chose. On est sur Google. On va faire une requête. Ça n'est plus une représentation culturelle que l'on va avoir. C'est une représentation qui se fait avec du ranking, pour le dire en bon français, donc avec des classements qui sont des classements algorithmiques et qui ne répondent pas à une représentation culturelle, qui répondent à un certain nombre de données qui sont des données numériques, qui sont des données après qui sont bougées d'un point de vue industriel, d'un point de vue marchand, avant tout marchand. Donc en fait, on est dans des représentations qui n'ont strictement rien à voir. Or, nous sommes dans une passation culturelle qui va être liée à un nouveau mode de représentation du monde. Et donc, on joue sur des classifications qui sont des classifications fondamentales. On va passer, dans un premier temps, d'une culture... Je le fais très très vite, hein, c'est donc un peu faux, mais ça donne des grandes tendances. Dans un premier temps, une représentation du monde qui va relever du religieux. Dans un deuxième temps, une représentation du monde qui va relever de l'alphabétique et donc de la littératie, et donc des savoirs collectifs, à une représentation qui va être une représentation qui va être liée à quelque chose qui sera à l'articulation de la mathématique, traduite de façon algorithmique, et puis du monde marchand. Donc on est là, on est à cette articulation-là. Qu'est-ce que ça donnera ? Je me méfie des hypothèses qui vont nous lancer sur les années qui viennent. Je crois qu'on peut tracer un certain nombre d'axes, mais ce que ça va être exactement, on n'en sait trop rien en fait. Parce qu'il s'agit vraiment de mouvements qui, au-delà du culturel, relèvent de l'anthropologique. On est en train de classer le monde de manière radicalement distincte. Et bien en fait, c'est, il me semble, sur ces interrogations de fond qu'on a intérêt à regarder ce qu'on est en train de faire. Je dis de manière très, très banale, hein, mais avec nos élèves, avec nos étudiants, avec nos collègues, parce que c'est l'accompagnement intellectuel que nous avons et que nous faisons de ce qui est en train de se passer. Et c'est cette articulation-là qui est intéressante. Alors je ne réponds pas à tout, mais je lance une autre piste de...
En fait, si je peux juste rajouter peut-être deux remarques du point de vue très spécifique de la littérature numérique, et pour répondre aussi à l'injonction d'Emmanuel Souchier d'interroger les imaginaires. C'est vrai que, en ce qui concerne la littérature numérique, il me semble qu'on a été dans cette phase d'une profusion de propositions online il y a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais depuis, il y a d'autres choses qui se sont passées, notamment l'arrivée des tablettes, l'arrivée des téléphones portables. Et ce que j'observe là depuis quelques années, peut-être 2-3 ans, très massivement, c'est l'émergence d'éditeurs qui s'intéressent très spécifiquement à la littérature numérique et qui produisent des œuvres pour les tablettes et pour les téléphones portables. Et des œuvres qu'ils appellent bien œuvres de littérature numérique. Donc il y a bien des instances de légitimation traditionnelles qui sont en train de réémerger et de se réemparer de ces productions littéraires numériques. Après, on peut le regretter ou pas, hein, que en fait cette période un peu à la fois sauvage et peut-être un peu inquiétante et en même temps tellement joyeuse et exploratoire se termine peut-être en partie. Parce que la deuxième chose que j'observe dans les communautés de la littérature numérique, c'est bien aussi une tendance. J'utilise ce mot, mais il est trop fort pour l'instant, à la canonisation. C'est pas encore exactement ça, mais en tout cas, une émergence d'anthologies et de recueils qui vont bien dans le sens d'une sélection. Et ça, ça s'observe vraiment dans les grandes communautés qu'on va présenter avec Serge Bouchardon plus tard dans la journée. Mais en fait, autant, par exemple, aux États-Unis avec la Electronic Literature Organization, mais aussi au Canada, il y a des labos, des associations qui sont actuellement en train de travailler sur des sélections
qui après d'ailleurs significativement sont édités parfois à la fois sur le web et sur CD-ROM pour faire œuvre, pour faire recueil. Et c'est quand même des tendances qu'il faut prendre en compte. Donc dans ces recueils, dans ces anthologies, dans ces processus de canonisation, j'utilise encore ce terme même s'il est trop fort, il y a bien du coup des sélections, il y a des œuvres qui sautent, hein, des œuvres qui passent à l'oubli, d'autres qui sont retenues. Et donc je pense juste qu'il faut prendre en compte ces deux aspects-là pour un peu atténuer cette remarque que, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler sur la littérature numérique, il me semble que c'était encore très fortement, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire il fallait aller sur Internet et tout simplement essayer ce qu'on trouve avec Google, ou qui n'existait pas sous cette forme à l'époque, mais enfin essayer de trouver des œuvres comme ça au hasard, les repérer dans le flot. Hein. Aujourd'hui, ça a déjà un peu bougé.
Et la question de savoir qui est-ce qui fait bien cette sûr. Sélection ? Parce que moi, je posais juste la question, oui. Je pense qu'il y a un déplacement, et selon vous, qui opère cette sélection, qui finalement institue la valeur des œuvres ?
C'est actuellement, je ne veux pas donner trop d'importance à ces associations et à ces communautés, mais il y a des communautés qui ont émergé autour de la littérature numérique, voilà. Et justement on va les présenter plus tard, donc je ne veux pas trop anticiper, mais si je peux citer quelques-unes.
Mais c'est bien là que je souhaitais aller, c'est-à-dire que je l'ai esquissé dans mon présentation, il me semble que la validation elle se fait par des communautés qui se reconnaissent entre eux, donc qui partagent les mêmes valeurs avec des règles, des objectifs communs et qui valident. Cette idée de validation par une communauté en lien, c'est assez intéressant du point de vue éditorial aussi.
Oui, je suis d'accord. Seulement, ce qu'il faut aussi prendre en compte lorsqu'on parle de communauté, c'est que ce ne sont pas forcément des communautés ouvertes.
Oui,
mais c'est des communautés qui ont souvent un ancrage très fortement académique. Donc il y a bien une validation là qui passe par l'université, en gros. Hein? Donc ça, c'est une autre spécificité qui me fait parfois réfléchir, c'est-à-dire, et qui pourrait même nous amener à nous interroger sur le caractère académique de certaines œuvres, mais ça c'est un autre débat, hein, qui est intéressant aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a bien des processus de légitimation qui sont en cours actuellement.
Oui, hein. Tout à fait.
Merci Alexandra. Donc Véronique, une question ?
Pas une question, peut-être juste une remarque. Je voudrais revenir une seconde sur ce qu'évoquait Madame Bizot et revenir au cadre de l'école et dire qu'il me semble qu'il y a quelque chose à quoi il faut réfléchir avec les pratiques qu'on peut voir dans les classes et qui est, au-delà de la question de l'écriture, une forme de nouvelle définition de ce qu'est la publication. Dans le cadre de la classe, au sens où elle est action de rendre publique, parce qu'elle instaure une forme, parfois, de relation différente entre l'élève et l'enseignant, d'une part, l'élève qui jusqu'à présent rédigeait et qui l'a écrit, hein, ça n'est pas tout à fait la même chose, et qui a parfois un questionnement extrêmement important sur le public de ce qu'il écrit. Je crois que ça repose au sein de la classe la question du public pour l'élève qui aspire à avoir un vrai public, même dans sa communauté, même restreinte, mais qui demande, au-delà des modes, qui va lire, comment on va diffuser, parce qu'il faut diffuser. La question de la diffusion de ce que l'élève écrit est une vraie question au sein de la classe. Et on voit bien parfois que certains enseignants sont assez démunis, voire dépassés par la question de la propagation des discours qu'ils ont permis, et on note à la fois l'enrichissement collectif au sein du groupe, mais aussi l'émergence d'une forme de d'incompréhension des élèves lorsque cette diffusion n'est pas possible dans tous les lieux qu'ils imaginent et qu'ils souhaiteraient. Et on arrive parfois à des situations où les élèves finissent par demander si on ne pourrait pas envoyer au journal local ou je ne sais où, mais c'est très intéressant parce que du coup la publication, le jeu qui a écrit, même s'il est multiple, devient une instance légitime du cadre de la classe qui pourrait sortir du cadre de la classe. Et je trouve que cette interrogation-là, la publication de ce qui se passe dans la classe, est extrêmement intéressant dans le positionnement de l'élève au sein de la classe. Voilà, c'était juste une remarque.
Pour répondre rapidement à cette question, il y a des enseignants associés donc, qui sont ici dans l'Assemblée, qui font des projets et qui font écrire aux élèves et qui ont posé cette question de la publication. Donc, pendant les 4 jours, il y aura des
choses
qui sont apportées. Peut-être encore une autre question.
Il y avait une question. Oui, mais moi, c'est une remarque sur la notion de territoire. La semaine de la langue française et de la francophonie a pour le motif prendre la langue pour territoire. Ce qui vient d'être dit à l'instant pose vraiment la question de qu'en est-il des territoires où est légitimé l'écrit, l'expression. Et je veux simplement vous citer, pour le cas où vous ne le connaîtriez pas, La Grande Lessive avec Joël Gontier, je ne sais pas si vous connaissez. Étendre sur un fil à linge des textes, des photos, des illustrations, format A4, et ça se fait dans l'école, en dehors de l'école, ça peut se faire dans la ville. Et la vraie question, c'est justement par rapport au territoire, c'est des espaces de transition et les objets transactionnels, c'est-à-dire qu'est-ce qui circule d'un univers à l'autre, et ça nous ramène au thème même du séminaire, c'est-à-dire est-ce que maintenant il est raisonnable de penser que être dans une communauté de langue, ça relèverait uniquement de la légitimation par les acteurs institutionnels. Ça me semble devenu un petit peu plus compliqué.
Oui, moi je voulais réagir, Madame Bisson, sur quelque chose qui a été posé par votre collègue là, et qui moi me touche particulièrement, qui est la mise en activité des élèves. Au fond, j'ai envie de dire, de manière un peu provocatrice, que tout ce qui a été mis en avant, présenté par vos soins et avec brio et de façon très structurée, je trouvais que ça m'a beaucoup intéressée, au fond, a déjà été fait en dehors du numérique. N'est-ce pas? C'est-à-dire que les journaux scolaires, enfin, moi j'ai commencé avec Freinet, hein, quand j'ai commencé à enseigner.
Freinet n'était pas ce qui dominait dans l'éducation nationale.
Justement, je ne faisais pas partie.
Alors que là, justement, on est dans un mouvement de légitimation de ces pédagogies actives, c'est voilà. Learning by doing.
Ben, vous avez répondu à la question que je voulais vous poser, c'est-à-dire que, en fait, les travaux d'écriture à partir de l'Oulipo, des expériences dadaïstes, les engouements de l'éducation nationale sur certains auteurs ou certaines pratiques pédagogiques ou certains textes incontournables ont fait les belles heures de mes poubelles au fil des années, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que j'enseigne, donc je suis toujours un peu réservée. La notion du destinataire, les pratiques d'écriture collaborative, les textes qu'on s'envoie, qu'on complète, les textes qu'on écrit à plusieurs, etc., tout ça, ça a été des grands moments de pédagogie. Mais la pédagogie, à un moment donné, depuis peut-être 15-20 ans, est sortie, en effet, et à mon grand regret, des pratiques des enseignants. Or, aujourd'hui, on est obligé de constater que, dans nombre d'endroits, on ne peut plus enseigner en frontal. On travaille beaucoup à Paris là-dessus. Et ce qui m'interpelle, c'est ce que vous avez dit et que je souligne, je pense que c'est vrai. On ne peut plus enseigner à des élèves qui ne sont pas en activité. De toute façon, c'était la base, à mon avis, de l'enseignement. Mais du savoir enseigner ou du pouvoir enseigner et du pouvoir apprendre. Mais là, maintenant, c'est vraiment une chose indispensable. Et je voulais savoir si vous aviez des pistes à nous donner pour renforcer justement ce besoin qu'on a de transmettre aux jeunes collègues de la nécessité d'enseigner. Je ne suis pas sûre que ma phrase soit tout à fait bien là, mais je vais. De la nécessité de mettre les élèves en situation d'apprentissage, des situations collaboratives.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire. Est-ce que j'ai des pistes? J'ai pas de recette en tout cas, ce qui est sûr. Mais je pense comme vous qu'on ne peut plus y couper. Voilà, on est dans un univers où les pratiques sociales et les pratiques extrascolaires, hors de l'école, font que les élèves fonctionnent. Excusez-moi le terme, autrement. Et que, alors qu'avant, les pratiques que vous décrivez, qui sont effectivement très banales, ce sont des poncifs de la pédagogie Freinet, mais c'était quand même le fait de professeurs innovants, parfois même militants, qui avaient senti avant d'autres tout ce que ça pouvait apporter. Aujourd'hui, c'est le lot commun. On ne peut pas faire autrement. Je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir d'excellents cours magistraux, mais un excellent cours magistral, en fait, il implique d'une autre manière, mais il implique l'élève dans la transmission. Il est. Je me souviens que quand j'ai commencé à inspecter, bon, il y a pas mal de temps déjà, j'avais toujours tendance à être assez sévère avec les professeurs qui faisaient des cours magistraux. Et puis progressivement, en regardant mieux, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs façons de faire des cours magistraux. Et les professeurs qui vraiment captivent leur auditoire, mais pas parce qu'ils les fascinent, mais parce qu'ils les intègrent complètement dans le cheminement de leur réflexion. Et que les élèves, en fait, si le professeur s'arrête, continue la phrase. Et c'est très intéressant de voir qu'il peut y avoir de l'activité et de l'implication tout à fait personnelle même dans un cours magistral. Donc, mais en tout cas, les professeurs qui pratiquaient ce genre de pédagogie étaient quand même... n'était pas majoritaire. Aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que non seulement je crois que c'est le numérique qui est pour beaucoup, l'élève est habitué à s'engager personnellement. D'ailleurs, ils prennent la parole à tort et à travers, hein. C'est pas par hasard. Vous voyez bien, dans les classes, les élèves se sentent totalement autorisés à intervenir n'importe quand, n'importe comment. Bon, il y a un problème de gestion et à écrire n'importe quoi. Donc, je crois que c'est un phénomène du temps et que le professeur doit non seulement en tenir compte, l'intégrer dans sa pratique, mais l'institution elle-même l'intègre dans les programmes. C'est-à-dire que quand on parle d'éducation média, c'est pas simplement d'apprendre à l'élève à se méfier d'eux, à valider ses sources, etc., quand il recherche sur Internet, ou à respecter autrui, mais c'est aussi de le faire réfléchir à ce qu'il est en train de... ce qu'il est en train de faire, comment il est en train d'écrire, et ça, c'est avec quoi il écrit, et cette réflexion-là, elle est totalement, elle est inhérente à l'enseignement de l'écriture et de la lecture, à l'enseignement des lettres. C'est plus du tout quelque chose qui est à côté, c'est une réflexion sur ce qu'on est en train de faire quand on écrit, quand on lit, quand on échange, quand on communique. Voilà, donc du point de vue de la légitimation, je crois qu'on peut difficilement aller plus loin qu'en l'inscrivant dans les programmes. Jusqu'à présent, là c'est tout nouveau, le peu de cours que j'ai vu depuis septembre, j'ai pas vu un seul professeur de français faire de l'éducation aux médias dans le cadre de son cours. Mais c'est pas grave, ça va venir progressivement. Quand on parle de la presse au 19e siècle, on peut faire de l'éducation aux médias. Voilà, il y a toutes sortes de pratiques qui vont se développer et qui vont... C'était aussi un des messages que je voulais faire passer dans mon introduction, c'est de dire qu'au fond, on n'a rien inventé. On est dans le prolongement, dans la réactivation de choses très anciennes. Hein. Je crois que, comme le dit souvent Emmanuel Souchier, hein, on redécouvre, on réactive des pratiques de lettrure, des choses comme ça, et que la simple chose, c'est qu'il faut en prendre conscience, et que les professeurs de lettres font beaucoup de choses sans toujours avoir conscience qu'ils sont précisément en train de faire exactement ce qu'on leur demande de faire. Hein. C'est pas... Donc le processus de légitimation, là, il est... C'est tout ce que je peux dire aux professeurs, c'est qu'il faut y aller, n'hésitez pas, allez-y, et puis expérimentez avec vos élèves. De toute façon, eux sont prêts à expérimenter, ils sont très motivés pour le faire. Le risque n'est pas très grand. Il faut s'autoriser à faire, voilà, il faut s'autoriser à faire.
Juste une remarque qui va plus, enfin, dans votre sens, c'est pour faire écho à l'intervention de Yaël. Un des problèmes du professeur de français, effectivement, c'est de pas s'en tenir à de la communication écrite ou orale, mais d'enseigner la littérature. Et quand on introduit ces objets écrits de toutes sortes, de toutes formes, de tout genre dans la classe, on a l'impression de ne plus respecter des hiérarchies selon lesquelles nous-mêmes avons été formés. Et pourtant, je trouve qu'il y a un appui là très intéressant. Et c'est dommage que les littéraires, y compris dans le domaine de la recherche, donc dans les facs de lettres, s'y intéressent si peu. C'est que ça permet de reposer la question de qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce qui est littéraire, qu'est-ce qui ne l'est pas, où commence la littérarité, où est-ce qu'elle s'arrête, et donc celle de l'art, évidemment, que vous avez posée tout à l'heure. Et je n'arrive pas, moi, à comprendre pourquoi cet objet de lecture numérique ou d'écriture numérique intéresse tant les sociologues, les psychocognitivistes, les économistes, bien entendu, les éditeurs, etc., et si peu les littéraires.